Bonjour à tous et bienvenue à Corporate Chat Podcast version française. Vos animateurs aujourd'hui sont Mathis Grandchamp et moi-même, Loïc Meunier. Nous sommes tous deux étudiants à l'Université McGill en finance. Étant de langue maternelle française et originaire des alentours de Montréal, mais aussi étudiant d'une université anglophone dans une province francophone, il est important pour nous et notre équipe de produire quelques podcasts en français afin de refléter la culture bilingue du monde des affaires montréalais. D'autres épisodes en français sont à venir, mais la majorité des podcasts demeureront en anglais. Pour notre premier épisode en français, nous recevons David Lehoux, partner et associé directeur chez Phoenix Partners depuis 2016. Phoenix Partners, c'est une firme de private equity qui est basée à Montréal et qui a été fondée en 2012. Depuis sa création, l'équipe de Phoenix a lancé deux fonds, le dernier ayant levé 104 millions de dollars avec une spécialisation dans les opérations de buyout, donc avec des participations qui sont majoritaires. Leur fonds se concentre principalement sur des investissements dans des industries dites traditionnelles, telles que la transformation alimentaire, les services et autres. Mais ils ne sont pas limités à ces industries-là. L'adéquation avec les propriétaires des entreprises cibles, c'est d'une importance capitale pour les employés et les partners de chez Phoenix. Donc actuellement, ils sont en phase de déploiement de capital, ayant déjà réalisé deux acquisitions avec leur plus récent fonds. Ils prévoient en réaliser encore 3 ou 4 autres au cours des 2 à 3 prochaines années pour achever cette période d'acquisition, d'investissement ou de déploiement de capital. Donc, dans le cadre de leur stratégie de croissance, l'entreprise vise à accroître la taille de ses fonds, mais aussi l'entreprise de Phoenix, donc la firme, dans tout son ensemble. Avant d'occuper son rôle chez Phoenix, il a passé plus d'une quinzaine d'années chez Banque Nationale en financement des sociétés et en marché des capitaux. David est aussi président du conseil d'administration du groupe BBH. Il détient la certification CFA et un baccalauréat en finance d'HEC Montréal. Sans plus attendre, notre conversation captivante avec David Lehoux.
Super, donc. Salut David, comment ça va?
Ça va bien, merci.
Merci beaucoup de prendre le temps. On voulait commencer, en fait, c'est notre premier podcast en français. En fait, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'impact que le français a à Montréal et comment décrirais-tu la culture qu'on a ici avec l'anglais versus le français dans le monde des affaires?
Certainement, bonne question. Donc, d'entrée de jeu, ben, le français au Québec, c'est pas un secret, c'est très important. Le monde de la finance est évidemment concentré dans les agglomérations comme Montréal, un peu Québec, évidemment, Toronto, d'autre part, donc une influence anglophone très forte et évidente. Par contre, dans le monde des affaires, et le private equity, c'est vraiment le pont entre le monde des affaires et le monde de la finance. Donc, nous, évidemment, le français, c'est un atout, c'est un argument de persuasion pour les propriétaires d'entreprises qui sont majoritairement francophones au Québec.
Super, merci pour ça. Puis, pour retourner un peu vers ta carrière professionnelle, ton background, d'où prend tes racines, ton intérêt pour la finance, puis qu'est-ce qui t'a fait choisir le HEC?
Oui, bien, on recule un peu, là. C'est sûr que quand on prend racine, on parle de un peu de l'éducation, le milieu familial. Moi, je viens d'un monde où l'entreprise faisait partie de nos vies. Là, mon père était un commerçant dans une épicerie de quartier. Et mes deux grands-parents, des deux côtés, étaient des entrepreneurs, soit en fabrication et un autre en boulangerie. Ensuite, mon frère et mon aîné rapidement converti ses connaissances qu'il avait en éducation physique pour convertir vers l'entreprise, puis finalement devenu chef d'entreprise assez jeune, et ça a été beaucoup d'influence. Donc, de là est né mon intérêt pour, d'abord, l'entrepreneuriat, les affaires, comme on dit. Et la finance, c'est venu par le goût de l'éducation, finalement, avec plus d'éducation académique. Le monde des affaires, vu de l'œil du monde de la finance, m'a beaucoup plus interpellé, moi, personnellement, avec la personne que je suis devenu. Donc, évidemment, je crois que le modèle familial qu'on a, c'est une influence importante, très puissante. Là. C'est là, c'est derrière nous, donc c'est quelque chose qui nous influence énormément. J'ai donc complété un bac au HEC donc en 2000, donc 97 à 2000. Puis c'était la bulle technologique, là, le monde de l'investissement boursier est en effervescence. Donc c'est vers ça que j'ai voulu orienté ma carrière à cet âge-là, l'âge de 18 à 20 ans, et le CFA qui commençait à se populariser dans les années 2000 était un incontournable, selon moi, pour la gestion de portefeuille, donc j'ai poursuivi vers le CFA à ce moment-là.
Super. Écoute, tu as aussi passé plus d'une décennie à la Banque nationale avant de te joindre à Phoenix Partners en 2016. Pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours à Banque Nat et aussi à Phoenix?
Oui, bien, quand tu as fait des études académiques, finances, comme vous le faites actuellement de votre côté, ben c'est sûr qu'il y a une suite naturelle vers les institutions financières. Ça peut être les institutions prêteuses, ça peut être les fonds de pension, ça peut être les caisses, comme les caisses de dépôt, ça peut être évidemment plusieurs grandes institutions d'investissement. Aujourd'hui, le private equity fait partie évidemment de cet écosystème-là. Ça l'était moins, moi, quand je suis sorti de l'école. Mais c'était comme un naturel d'aller vers les banques. Donc, je suis allé vers la Banque nationale. Donc, le fait que j'ai fait des études après l'université vers le CFA m'a permis de cheminer dans la banque, donc aller vers ce que j'appelais au début l'intérêt pour la gestion de portefeuille. Ça s'est avéré un peu différent dans mon cas, mais d'une opportunité à l'autre, on devient, dans le fond, on devient prêt à embarquer dans des défis. Moi, je suis une personnalité qui aime les défis, donc d'une opportunité à l'autre, je me suis retrouvé au financement des grandes sociétés, puis ensuite, du financement des grandes sociétés, après plusieurs années, j'ai transité vers la salle de marché qu'on appelait le marché des capitaux, Capital Markets, de la Banque nationale, qui est probablement le plus grand centre de trading québécois, parce que c'est la seule banque qui a une salle de trading complète à Montréal. Donc, fascinant, c'est un monde que j'ai découvert à même que ces opportunités-là s'ouvraient à moi. Puis, ça s'est converti finalement dans l'émergence, en même temps que le private equity au Canada, au Québec, arrivait. Il y avait peu de private equity, beaucoup moins de prise de risque des grandes institutions financières. Avant ça, si on reculerait dans le temps, là, vous auriez beaucoup de témoignages comme quoi que les banques, entre autres, mais aussi beaucoup d'institutions financières, prenaient du risque en équité, investissaient, faisaient la courroie de transmission de la mission d'une banque. Ça passait aussi par l'équité. Et les accords de Bâle, toute la réglementation qui s'est graduellement implantée pour les banques canadiennes, entre autres, a fait en sorte qu'il y a une réduction de la prise de risque. Donc, l'émergence du private equity, c'est un vase communicant avec ce phénomène-là, qui est un phénomène réglementaire. Et moi, j'ai tout assisté à ça et j'ai donc voulu, à un moment donné, là, tu sais, vraiment, c'était une volonté de ma part de me diriger vers le private equity. Et avec François Fauteuil et Phoenix, qui était un client à ce moment-là, ben, j'ai eu une opportunité à un moment donné, puis je l'ai simplement capté cette opportunité-là, puis j'ai transité.
Parfait. Puis, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle, puis tes tâches de jour après jour, en tant qu'associé directeur chez Phoenix Partner aujourd'hui?
Oui, certainement. Donc, le rôle d'un directeur, d'un associé en private equity, ça varie beaucoup, là. Donc, si vous prenez une grande organisation de private equity qui gère multiples fonds en overlap, qu'on appelle, donc les fonds sont souvent pas terminés quand on lance le prochain, donc il y a un legacy business qui est un portefeuille d'entreprise qui est détenu, qui est en gestion, puis là, on ouvre un nouveau pôle de capital, on ouvre un nouveau fonds et là on tombe en investissement puis on cherche des entreprises à acquérir. C'est sûr que dans une grande organisation, les rôles sont scindés en plusieurs niveaux. Donc on va avoir une hiérarchie d'un analyste, après ça associé, qu'on va appeler l'associé directeur, après ça le directeur, après ça on va appeler le vice-président, le principal, le partenaire, après ça le partenaire équité, puis finalement le partenaire ou l'associé directeur au-dessus de tout ça, qui est le propriétaire finalement. Dans une petite organisation comme Phoenix, c'est différent. On fait un peu de tout. Donc, toute l'équipe chez Phoenix, on est 6 professionnels à temps plein là, en ce moment chez nous, plus on va ajouter une quinzaine de professionnels à ça dans nos business, mais si on s'attarde à ce que Phoenix fait, on fait 4 choses principalement. Donc, un, on trouve des entreprises dans lesquelles on veut investir. Donc, ça, c'est une recherche constante. On est toujours en train de discuter avec des propriétaires d'entreprises. On est à la recherche de nouvelles relations. Ces relations-là prennent du temps. Ça se fait sur plusieurs mois, des fois plusieurs années, avant d'arriver à un partenariat. Donc ça, c'est une chose qui nous occupe beaucoup. Supporter puis participer à la gestion des entreprises. Donc, une fois qu'on a l'entreprise qui est dans notre portefeuille, bien là, bien, évidemment, le travail commence. Là, puis, on veut créer de la valeur dans l'entreprise. Donc, on va, évidemment, avec la présidence, avec l'administration de cette entreprise-là qui est indépendante à nous, bien, elle va venir vers nous pour des conseils, du support, du financement, des projets d'acquisition, des projets d'investissement dans l'entreprise. Donc, ça, on va s'occuper de ça. On va faire des analyses pour eux. On va s'assurer que tout est mesuré, puis les décisions sont bien prises. On va aussi, évidemment, trouver du capital, donc, trouver des investisseurs pour Phoenix. Non seulement on va s'occuper de nos investisseurs actuels, on va répondre à leurs questions, leur donner du feedback sur qu'est-ce qui se passe, mais on va aussi rechercher des nouveaux investisseurs pour, évidemment, grandir avec eux donc dans les prochaines versions des fonds qu'on veut, qu'on a l'intention d'aller au marché avec. Puis finalement, bien, on cherche des gens pour venir chez Phoenix. On rencontre beaucoup de monde. Il y a des gens qui viennent vers nous naturellement. Nous, on va vers certains professionnels qui ont une expertise bien précise qu'on recherche. On veut s'adjoindre. Donc, ça peut être pour aller dans une de nos entreprises, mais ça peut aussi devenir chez Phoenix. On est évidemment en croissance. D'ici 2 ou 3 ans, on vise à être le double de professionnels qu'on est actuellement. Puis, on vise à avoir le double d'entreprises sous gestion qu'on a actuellement. Donc, on est dans une période de croissance importante actuellement.
Super, bien super intéressant, merci pour ça. Puis écoute, je voudrais juste faire le pivot puis revenir à ce que tu disais quand tu travaillais à la Banque nationale. Comment est-ce que tu dirais que les qualités que tu as acquises là-bas, l'expérience que tu as acquise là-bas se transfèrent à ton nouveau rôle chez Phoenix?
Oui, c'est la beauté d'être dans une grande institution financière. Puis tantôt tu as parlé d'une dizaine d'années, en réalité j'ai passé 18 ans à la Banque nationale de mes années. Étudiant et j'employais, j'occupais un poste à temps partiel déjà à la Banque nationale. Puis j'ai fait un détour là, à la Bourse de Montréal pendant 2 ans, mais sinon, sur les 16 autres années de mes 18 ans avant d'arriver chez Phoenix, je les ai passés à la banque. Donc, j'ai occupé toutes sortes de rôles. Le back office, le front office, j'ai été analyste, j'ai été directeur, j'ai eu un groupe à ma charge. J'ai fait du développement des affaires, donc des ventes. J'ai fait de la structure. Donc, c'est une panoplie d'expériences qui se cumulent pour arriver à dire, bon, est-ce que je suis capable aujourd'hui de contribuer chez Phoenix Partners à toutes sortes de projets, toutes sortes de responsabilités? Oui, puis c'est en grande partie, sinon presque en totalité à cause de mes expériences à la Banque nationale.
Puis, en private equity, souvent, on est capable de remarquer une certaine tendance que les gens finissent par assumer un rôle d'administrateur des sociétés parce que, justement, ils travaillent avec la haute direction. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'implication puis le rôle que ça représente d'être un administrateur d'une société?
Oui, bien, en fait, dans notre organisation, pour parler de la nôtre, mais je crois que c'est comme ça dans plusieurs private equity, au niveau des associés, nous, on a 3 associés chez Phoenix, donc on est 6. Donc, c'est une organisation du travail qui est très responsabilisée. On a peu ou pas de personnes qui ont des rôles juniors, on va dire, ou des rôles d'entrée. Tout le monde a des rôles seniors chez Phoenix, donc pour être capable de contribuer. Au niveau de chacun des 3 associés, on s'occupe personnellement de diriger le conseil d'administration d'au moins une entreprise. Donc, moi, dans mon cas, je m'occupe de groupe BBH et Macmore Industries, qui sont les deux ensemble regroupés dans le même actionnariat. Mais c'est 2 entreprises séparées. Une est à Montréal, l'autre est au Manitoba. Et donc, je vais être présent dans cette entreprise-là chaque semaine. Je vais jouer un rôle de support au président, support aussi au CFO, là, au chef des finances, parce qu'une entreprise... Ça, c'est une entreprise qui a une taille d'à peu près 100 millions de ventes. Ça demande constamment un aller-retour avec les partenaires comme la banque, avec d'autres groupes. Puis, il y a des opportunités d'acquisition qui se manifestent à ces entreprises-là. Puis, par exemple, dans mon cas, avec Groupe BBH, ben, on est présentement en train de réaliser une acquisition un peu plus dans l'ouest là, du pays, plus à l'ouest pour Macmore, pour étendre le réseau de Macmore. Donc, que ce soit une petite acquisition, que ce soit une très grande acquisition, c'est Phoenix qui va s'occuper de ça pour cette entreprise-là. Puis chez Phoenix, c'est David Lehoux qui s'en occupe. Puis c'est moi aussi qui va présider le conseil d'administration. Donc je vais organiser la séance, je vais faire des procès-verbaux, je vais donner le feedback, le reporting à nos partenaires institutionnels. Par exemple, FSTQ fait partie de ce conseil d'administration-là, puis est représenté par un professionnel. Mais je suis en charge de toute cette reddition de compte, le feedback à nos investisseurs.
OK, super intéressant. Merci. Écoute, on change un peu de sujet. Puis pour la dernière question du segment personnel, comment est ton équilibre de vie? Comment a été ton équilibre entre travail et ta vie personnelle au cours de ta carrière? Puis c'est ça, comment il a évolué?
Bon, bien ça, c'est sûr que le monde privé, là, tu travailles quand tu travailles, puis quand c'est tranquille, bien, tu en profites, puis tu rééquilibres ta vie. Mais il y a des périodes où est-ce qu'on travaille 60 à 70 heures par semaine, qui peut être pire ou moins pire, ça dépend avec qui on se compare. Mais il y a des périodes aussi où est-ce que c'est saisonnier pratiquement. Il y a des périodes où tout le monde est en vacances, mais à ce moment-là, il y a peu de choses à faire, donc on va rééquilibrer, on va faire un peu plus d'entraînement, on va voir la famille, on va être un peu plus favoriser les vacances chez Phoenix.
Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, ça se traduit en quoi Phoenix Partners? C'est quoi votre philosophie d'investissement, puis votre focus en général quand vous faites des choix d'investissement?
Je cherche des entreprises qui sont principalement à un niveau où est-ce qu'ils ont eu une croissance, puis on peut apporter quelque chose à cette entreprise-là. Donc, on recherche un fit avec les propriétaires actuels. On idéalise les situations où le propriétaire actuel se cherche un partenaire. Il y a beaucoup de, on va appeler ça des private equity qui focus sur le capital. On va entendre, ça pourrait être Phoenix Capital. Nous, on a choisi Phoenix Partners. Puis le mot partners vient de partenariat en français, veut dire on veut s'associer avec des gens qui sont des experts dans leur domaine d'expertise, mais qui ont besoin d'un appui d'un partenaire financier comme nous, qui peut être opérationnel. Nous, on va dans l'opérationnel, donc on prend la majorité des actions pour créer de la valeur, parce qu'on a des recettes, on a des tips, des trucs, on a des choses qui créent de la valeur, que ce soit dans le financement, que ce soit dans la façon de grandir par acquisition. On amène instantanément à cette entreprise-là une équipe de M&A à l'interne qui permet à ce moment-là de réaliser beaucoup, beaucoup d'investissements de croissance. Et c'est ça qu'on apporte à l'entreprise. Donc, c'est ça qui est valorisé pour nos partenaires. Mais idéalement, on veut que le partenaire reste avec nous pour qu'il conserve son apport à lui, qui est probablement encore beaucoup plus important que le nôtre. C'est toute sa connaissance de l'entreprise.
Puis pourquoi avez-vous décidé de focus sur les PME spécifiquement au Québec?
Oui, bonne question. Premièrement, on est ici, on vient d'ici, on a un réseau ici. L'autre raison, c'est que c'est un marché qui avait été un peu délaissé. L'Amérique du Nord, évidemment, a développé le private equity avec une vitesse beaucoup plus accélérée que ce qu'on a vécu ici au Québec. On a encore à ce jour un peu de retard. Donc, il y avait un besoin qu'on a rempli dans le marché. À notre proportion, à notre apport. Donc, ça a été évident. L'autre chose, c'est que, on parle français, puis vous en avez parlé un peu en début d'entrevue. Quand on regarde les private equity qui peuvent venir jouer le rôle du partenaire financier pour nos entreprises d'ici, la communication, c'est majeur. La proximité, c'est majeur aussi. Donc, c'est évidemment d'être capable de prendre une participation majoritaire, mais de pas être capable d'être ici chez l'entreprise à chaque semaine, ça fait pas beaucoup de sens, surtout pour la première année, les deux premières années d'existence du partenariat. Il faut être très, très présent dans l'entreprise. Donc, on croit fermement à ça. Donc, c'est un des appuis. Évidemment qu'on vise éventuellement avoir un Phoenix Partners pan-canadien, mais ça va nous prendre une équipe à ce moment-là à Toronto, peut-être une équipe dans d'autres provinces aussi, pour créer le même lien de proximité avec les entreprises.
OK. Donc, un focus sur les PME au Québec pour l'instant. Maintenant, pourquoi exclusivement les participations majoritaires?
OK. Très bonne question. C'est là qu'on va créer de la valeur. Quand tu es capable de prendre le bilan de l'entreprise, de gérer ton financement, de gérer ton remboursement d'emprunt, si on s'intéresse un peu plus au private equity, puis comment le private equity a du succès, bien, il y a une partie qui vient de la structure financière et de comment cette structure financière-là, elle est gérée à travers une période d'investissement. Donc, si j'ai un investissement qui dure 5 ans ou 7 ans, bien, je vais viser, moi, comme entité, comme institution financière, comme investisseur, je vais viser un rendement, puis contrôler le bilan de l'entreprise, contrôler le rythme de remboursement des dettes corporatives. C'est un levier essentiel à la création de valeur. Ça, c'est la première des choses. Quand on est minoritaire, souvent, bien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est majoritaire, et c'est le majoritaire qui décide plusieurs questions essentielles comme ça. Pour le reste, dans l'opération d'entreprise, le fait d'être majoritaire ou avoir un économique qui est minoritaire, c'est pas ça qui est très important selon nous. L'important, c'est vraiment le contrôle de la destinée sur comment on investit à l'intérieur de l'entreprise, comment on rembourse nos engagements, nos dettes, et là, bien, comment l'équité va grandir, la valeur de l'équité dans l'entreprise va grandir. Comment faire doubler la valeur de l'équité dans une entreprise? Bien, c'est pas nécessairement sorcier, c'est pas si difficile que ça, mais il faut contrôler notre capital.
Mm-hmm. Peut-être, comment décrirais-tu l'importance de la relation avec le membre des comités exécutifs dans les entreprises que vous achetez? Puis comment tu décrirais cette relation-là?
Avec le président de l'entreprise.
Avec, mettons, le président de l'entreprise ou le comité exécutif, tu sais, c'est quoi votre rôle en tant qu'administrateur, oui, mais aussi, tu sais, vous avez une partie de l'entreprise qui vous appartient, c'est quoi le rôle?
Bien, il faut que tu penses à, mettons, une hiérarchie d'une entreprise, là, tu sais. Au top de la hiérarchie, il y a le président. Mm-hmm. Typiquement, dans une entreprise privée, ça s'arrête là. Quand une entreprise privée devient un peu plus grande, bien, il se forme un conseil d'administration, puis là, bien, le conseil d'administration a un seul employé qui est le président de l'entreprise. Donc, le président va rapporter au conseil d'administration. C'est comme ça dans une entreprise publique, par exemple, qui est cotée en bourse. Mais le private equity crée ça chez une entreprise de beaucoup plus petite taille. Donc, le rôle est très important. Moi, comme administrateur, et dans mon rôle chez BBH, par exemple, je suis le président du conseil. J'organise mes séances de conseil et je les prépare, donc, j'ai une relation très forte et très, très de proximité avec mon président. Il faut que ce soit une relation qui soit totalement professionnelle. Il ne faut jamais faire l'erreur, que j'ai déjà faite, de devenir ami avec nos partenaires. Il faut que ce soit une très belle relation, une relation basée sur la confiance, mais ne pas nécessairement aller au-delà de le cadre professionnel. Moi, ce serait mon conseil. C'est depuis que j'applique ça avec rigueur, j'ai beaucoup plus de succès, j'ai beaucoup plus de facilité à travailler avec ces gens-là que les expériences que j'ai eues où est-ce qu'on a développé vraiment des liens d'amitié, ce qui est facile à faire, qui est un réflexe chez n'importe qui, là. On a des affinités. Bon, ces gens-là qui travaillent avec nous dans les entreprises, ce sont des gens qu'on a choisis. Fait que souvent, c'est eux qui remplacent, par exemple, l'ancien propriétaire ou le propriétaire qui nous a vendus, qui a voulu aller vers la retraite. C'est souvent des gens qui sont prêts pour la retraite, qui visent une transition vers la retraite. Donc, quand on choisit quelqu'un, bien, c'est quelqu'un qui est un peu plus proche de notre âge, qui est un peu plus notre background, qui nous ressemble, qu'on aime bien, qu'on valorise. Donc, il faut garder une certaine distance professionnelle. Ça, c'est un conseil que moi, je donnerais. Mais la relation, il faut qu'elle soit très proche et elle soit très forte au niveau de la confiance.
OK. Puis dirais-tu que c'est un peu la même relation qu'il doit avoir au sein de la firme en tant que telle, c'est-à-dire un certain professionnalisme où là, il y a plus de...
Mais là, tu parles de la culture.
D'accord. Ouais.
Donc là, tu parles de la culture. Là, tu rentres dans un autre type de question. C'est-à-dire que, est-ce que Phoenix, par exemple, va aller jouer sur la culture de l'entreprise? La réponse est oui, mais la personne qui a le plus d'impact sur la culture de l'entreprise, c'est vraiment le président. Souvent, on rentre dans une entreprise familiale, il y a une culture très forte qui est déjà en place. Nous, on arrive et on va créer un chamboulement, on va changer la personne clé, le président d'entreprise, parce que, veut pas, personne n'est remplaçable, puis il faut qu'il aille vers la retraite. Fait qu'il va avoir un nouveau président en place, puis ou une nouvelle présidente, puis il va avoir un changement de culture. Mais ça, ce changement de culture-là, c'est pas Phoenix qui le contrôle, c'est vraiment le président qui, lui, va implanter, il va engager souvent des gens, il va amener du sang neuf dans l'organisation, souvent dans des postes de très haute responsabilité au niveau des finances, au niveau des ventes, au niveau des achats, au niveau de la gestion des entrepôts, que ce soit à tous les niveaux, puis là, il va changer un peu la culture. Et c'est très important à ce moment-là de la seule vraiment responsabilité qu'on a, c'est de choisir quelqu'un en qui on a confiance, qui va amener une culture qui nous ressemble. Mais c'est jamais notre culture, c'est sa culture, c'est la culture de son organisation. Okay.
Puis c'est sûr, tu as mentionné plus tôt justement que c'est dans les critères le fit. C'est sûr qu'il y a déjà là, il y a déjà une plus grosse probabilité, tu sais, qu'il va y avoir des affinements entre les deux. Puis qu'est-ce que tu dirais justement pour empêcher cette tendance-là à devenir l'amitié et à se rapprocher? Qu'est-ce que tu trouves que la distance, pourquoi c'est autant important de garder cette distance-là puis pas franchir le pas vers l'amitié? C'est quoi que ça apporte en tant que tel?
C'est parce que c'est une relation fonctionnelle, c'est une relation d'affaires qu'on a ensemble. Et dans toutes les relations fonctionnelles, les relations d'affaires, il y a des moments où tu dois prendre des décisions difficiles qui doivent être basées sur on doit faire le meilleur pour l'entreprise. On ne doit pas faire le meilleur pour toi, Mathis, toi, Loïc. On doit faire le meilleur pour l'organisation. Notre rôle, nous autres, chez Phoenix, c'est de créer de la valeur pour les actionnaires qu'on représente dans Phoenix Partners, mais aussi nos co-actionnaires dans l'entreprise qui ne sont pas chez Phoenix Partners. Et on a une responsabilité fiduciaire. On appelle ça le conseil d'administration. Là, si vous vous documentez là-dessus, c'est très large. Puis, tu as une responsabilité non seulement morale, mais légale. Quand tu es administrateur d'une société, tu es vulnérable à la responsabilité de toutes les conséquences que ton organisation va porter, que ce soit sur tes défauts de produits, que ce soit sur des attitudes, pas des attitudes, mais des conflits de travail, que ce soit sur de la santé et sécurité au travail dans l'organisation, des accidents de travail. Donc, on est responsable ultimement de tout ça. Donc, tu dois avoir une culture basée sur des valeurs. Maintenant, les valeurs, c'est quoi? Bien, c'est la transparence, c'est l'honnêteté, c'est la performance, c'est la sécurité, c'est la famille aussi. Donc, c'est tout ça. Donc, ça, il faut que ça transcende partout dans l'organisation. C'est un défi, là. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain non plus. Puis, il arrive des fois où on a un fit avec le vendeur nous fait confiance, il transite vers la retraite, et la personne qu'on met en place, ah, ben là, il va faire des choses qui sont pas à son goût à lui, évidemment. C'est très, très dur pour un entrepreneur qui a bâti sa business de faire la transition puis d'être pleinement satisfait que le prochain professionnel va prendre sa place puis qu'il va faire des choses différentes qui vont lui plaire parfaitement. C'est impossible à ce que ça se passe. Donc, il y a tout ça qui doit être un peu géré.
Donc, comme tu as mentionné, vous apportez un appui qui est opérationnel. Comment travailles-tu pour maximiser la valeur de ces entreprises-là? Écoute, ça peut être au niveau d'un exemple que tu peux nous donner ou simplement, en général, qu'est-ce que vous faites au niveau d'un appui opérationnel ou strictement financier pour augmenter ou maximiser la valeur?
Oui, bien aujourd'hui, on s'améliore de plus en plus à ce niveau-là. Donc, on a avec nous là, deux personnes qui viennent du monde de l'entrepreneuriat, qui ont eu des entreprises pendant une dizaine d'années ou plus, qui ont été présidents d'entreprise puis qui ont su démontrer leur ingéniosité puis leur réseau aussi de collaborateurs pour créer de la valeur dans les entreprises au niveau opérationnel. Donc, que ce soit sur l'efficacité ou la flexibilité ou l'agilité de l'entreprise par les systèmes TI, par les façons de faire la production, par exemple, quand on fait de la production, ou les façons de faire de la distribution, quand on fait de la distribution, bien, on amène ces deux personnes-là. On a Patrick Follet, qui est un ex-président d'entreprise chez Groupe Luminaire, qui travaille avec nous dans plusieurs de nos entreprises. Il siège certaines de nos entreprises au conseil d'administration. On a aussi Miguel Anger, là, qui est un partenaire externe, qui vient nous aider, nous donner des conseils, puis parle avec nos présidents d'entreprise. Il nous aide aussi à faire du recrutement. Puis Miguel aussi siège sur une actuellement de nos entreprises. Donc, avoir cette espèce d'appui-là fait en sorte qu'on est capable de rapidement aller chercher là, de l'efficacité dans une entreprise qui était auparavant gérée par soit un propriétaire unique ou une famille qui avait atteint un certain succès. Nécessairement, il y avait peut-être des petites améliorations à faire au niveau opérationnel pour aller vraiment chercher la pleine valeur là, des opérations de l'entreprise.
Puis, Phoenix Partner en est à sa deuxième levée de fonds. Mm-hmm. Pouvez-vous nous parler du type d'investisseur peut-être dans le fonds, puis du processus entourant une levée de fonds typique dans Private Equity?
Certainement. Bien, à la base, on a une base importante là, d'investisseurs institutionnels comme FSTQ et Fonds d'action. Et on a également un important groupe d'investisseurs privés, que ce soit des individus fortunés, des family office. Souvent, les privés, là, ce sont des gens qui viennent du monde de l'entreprise, qui comprennent notre modèle d'affaires. Ils ont toujours eux-mêmes fait beaucoup d'argent ou ils auraient eu du succès dans l'entreprise privée. Donc, après avoir soit vendu une partie ou totalement leur entreprise, se cherchent des véhicules d'investissement privés, comme le private equity, pour continuer de réinvestir leur entreprise, mais de façon plus diversifiée dans des portefeuilles d'entreprise. Donc, on va aller chercher ce type d'investisseurs-là. C'est un naturel avec nous. Donc, actuellement, on a un peu plus d'investisseurs privés que d'investisseurs institutionnels.
Super, merci beaucoup. On pivote un peu. En 2022, on a assisté à un essor du private credit. Comment évalues-tu cette classe d'actifs? Puis, est-ce que Phoenix Partner, est-ce que vous en avez recours? Quelle est la différence avec les banques, etc.?
Nous, on n'en a pas recours. C'est très populaire parce que, oui, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont aller chercher un maximum de financement. Nous, on a adopté une thèse qui dit qu'on préfère endetter moins nos entreprises. Donc, évidemment, quand tu endettes moins, ben, tu as moins besoin de financement. Puis, on a d'excellentes relations avec nos banquiers. Donc, c'est suffisant pour nous. Mais on s'est fait beaucoup approcher là, dans les derniers 2 ou 3 ans. Là, beaucoup d'essor de ce côté-là, oui.
Puis, est-ce qu'il y aurait une transaction, que ce soit de désinvestissement, d'acquisition, de vente, que vous avez été pas ou que vous avez entendu, que vous aimeriez nous parler?
Oui, bien, il y a un cas que j'aime présenter, c'est les Industries Bernard. C'est un important transformateur, puis c'est un embouteilleur là, de sirop d'érable. Donc, très québécois dans l'industrie nichée et très connue que le sirop d'érable. C'est quand même compliqué comme industrie. On a réalisé avec un grand succès là, ce partenariat-là. C'était dans la première génération de fonds de Phoenix, ça a été son premier investissement dans le fonds 1 de Phoenix. C'était une entreprise familiale qui était rendue à la cinquième, qui est encore à la cinquième génération de Bernard. Donc, les Industries Bernard, c'est la famille Bernard, qui est toujours à sa tête aujourd'hui, malgré que nous, on ne soit plus là. On était arrivé en 2017, on a acquis plus de 75%. On a acquis 75% en fait des actions d'entreprise. On avait FSTQ à nos côtés, des investisseurs privés encore. La famille avait retenu 25% des actions. En 2022, ben, on a réalisé une sortie et la famille, elle, a réinvesti avec le nouveau acquéreur. Il est resté. Donc, Martin Bernard est toujours à la tête, président maintenant de l'entreprise. Martin, c'est effectivement là, la cinquième génération et son père et ses oncles sont retirés. C'est Valley of Food avec Bain Capital, qui est un groupe mondial en agroalimentaire, dans le sucre naturel, qui a repris notre position. Puis, on a réussi, là, en à peine 5 ans, de doubler l'entreprise, doubler l'EBITDA. On a réussi à faire énormément d'investissements à l'intérieur de l'entreprise. On n'a pas fait d'acquisition, donc on n'a pas grandi par acquisition, seulement organiquement. Puis, on a réussi avec cet investissement-là à faire 10 fois notre argent investi initial. Donc, peu importe là, les montants, quand on réalise des rendements de cette ampleur-là, ça crée énormément d'engouement pour notre organisation à nous, Phoenix Partners, donc on en est très fiers.
Super, wow. Très impressionnant. Puis comment vois-tu le marché de l'investissement privé en 2024 puis dans les prochaines années?
Bonne question, c'est très d'actualité. On se pose beaucoup de questions. Je ne vous dirais pas que j'ai une réponse ferme là-dessus. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce qui s'est passé en 2022-2023, c'est qu'il y a eu un changement important qui a été causé, entre autres, par initialement beaucoup trop d'inflation qui n'était pas transitoire. Finalement, les banques centrales ont augmenté les taux de façon très importante. Je ne vous apprends rien. Mais contrairement à 2023, on a cessé de craindre qu'il y aura plus de hausse de taux dans un avenir approché. Donc, la peur crée une espèce de stagnation, un statu quo. Les gens, quand ils ont peur, ne bougent pas. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup moins de transactions en 2023 qu'historiquement. Et je pense que 2024 va être une année de reprise au niveau du volume de transactions. Mais évidemment qu'on est au niveau des taux actuellement. Plusieurs observateurs pensent que les taux vont rester élevés plus longtemps. Mais au moins, on n'est plus dans une période où les gens craignent un resserrement là, des conditions de crédit, ce qui va aider beaucoup le private equity, selon moi.
Puis maintenant, pour transitionner vers notre segment de guidance, comment les étudiants devraient-ils s'y prendre pour trouver des stages, que ce soit en sortant de l'école ou durant, après la première, deuxième, troisième année d'université?
Bien, la première chose à faire, c'est de nous contacter, appeler. Je crois que il faut parler au plus de monde possible. Pas être gêné d'appeler. Nous, sur notre site web, nos numéros de téléphone sont là, là personnels. Je crois que la prochaine cohorte de jeunes professionnels vient d'un paradigme un peu différent de qu'est-ce que nous, moi personnellement, j'ai connu. Donc, c'est sûr qu'on aime beaucoup là, la distance, les messages, même les emails, c'est moins populaire. Là, donc, c'est pas avoir peur des contacts directs. Donc, moi, c'est mon premier conseil, appeler les gens. Les gens aiment ça, se faire appeler. En tout cas, ma génération aime ça. Je crois que c'est pour être capable de travailler dans un monde comme le private equity, il faut démontrer une autonomie, là, une capacité. Puis ça, bien, juste la façon qu'on communique, c'est une bonne indication. Puis c'est un message qu'on envoie aussi aux gens qu'on appelle. Là, c'est « Hey, je suis disponible, je ne suis pas gêné, je suis capable de travailler en équipe. » Donc, c'est tout est là. On n'a pas beaucoup de chance hein, quand on appelle quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, la première impression est très importante. Je crois qu'il faut se préparer puis il faut communiquer.
Super. Donc, tu as mentionné aussi qu'il y avait quelques personnes juniors chez Phoenix. À quoi ressemble un entretien dans un poste plus junior et quelles qualités, expériences, etc. recherchez-vous?
Ouais. Ben, nous, on est très classique. Là. On fait des entrevues où on veut comprendre la motivation. On veut mieux expliquer les expériences qu'on peut lire là, sur le CV. Voir évidemment la personnalité, c'est très important. On aime les gens à l'aise, à travailler en équipe, les gens confiants. Puis aussi, évidemment, des gens qui ont d'importantes capacités analytiques ou capables de faire des modèles financiers un peu plus poussés que ce que nous, on a. Donc, il faut se démarquer dans n'importe quelle ambiance ou environnement compétitif. Là, il faut se démarquer. Donc, il faut essayer de deviner ce que Phoenix a besoin. Et les gens qui ont joint notre équipe, d'une façon peut-être un peu chanceuse ou d'une façon aléatoire, ou voulu, ou en posant beaucoup de questions, ils ont trouvé qu'est-ce qui était le besoin pour nous, puis ils ont rempli ce besoin-là. Donc, je pense que quand on rentre dans une grande organisation, c'est différent. Quand on vise une plus petite organisation, que ce soit un fonds de private equity de notre envergure ou plus grand, bien, il faut s'adapter à la situation.
Donc, tu as mentionné plutôt ne pas hésiter à entrer en contact avec les gens de l'industrie. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner pour quelqu'un qui entre dans l'industrie financière tout de suite après l'université?
Oui, bien en fait, comprendre la comptabilité, puis la fiscalité corporative, le financement des entreprises, c'est clé. Je dis pas que c'est chose simple et je m'attends pas à ce qu'un finissant du baccalauréat ait toutes ces connaissances-là apprise, puis même sur le bout des doigts, mais l'intérêt doit être là. Donc, je crois que c'est ça qui va, au fil du temps, là, démarquer un professionnel en finance envers un autre qui ne va pas essayer, avec la curiosité, de développer des compétences autour de la comptabilité, de la fiscalité, puis le financement. Mais à mes yeux, c'est ce qui est le plus important.
Et quels seraient vos conseils à un récent gradué qui voudrait éventuellement peut-être lever un fonds? Est-ce que vous recommanderiez d'aller chercher de l'expérience, des contacts, etc., comme vous avez fait à Banque nationale, ou plutôt de se lancer directement dans le monde de l'investissement?
Bien, ça dépend des expériences, des contacts, des influences qu'on peut avoir eues plus jeune. Débuter un fonds avec des actifs liquides, là, les stocks, les bonds, les dérivés, avec des stratégies, d'abord réunir du capital, créer une organisation en SEC, donc la forme juridique, comprendre la fiscalité derrière tout ça, puis comprendre ce qui en retourne de gagner cette expérience-là, ça serait déjà majeur. Très peu de gens, j'en connais pas, qui ont fait ça ou qui font ça en ce moment. Les universités organisent des fonds de placement. Ça aussi, c'est une belle façon de s'intéresser à la gestion privée. Ça me semble plus réaliste là, que de partir un fonds de private equity, mais comme je dis tout le temps, tout est possible. Il ne faut jamais, si on est convaincu de notre capacité, ben, il faut se lancer. Sauf que, tu sais, il ne faut pas avoir peur non plus ben, faut pas avoir peur de faillir. C'est pas avoir peur de pas réussir quelque chose si on se lance dans quelque chose qui est peut-être un peu plus difficile. J'accumulerais plus d'expérience, disons, avant de me lancer dans la création d'un fonds.
Puis, pour transitionner vers nos questions rapides, mm-hmm. quel serait le meilleur conseil que quelqu'un t'ait jamais donné?
Bonne question. Écoute, évidemment, là, j'avais réfléchi un peu à ça. Henry Ford a dit quelque chose qui est très bien. Là. Se réunir est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Travailler ensemble, c'est la réussite. Donc, pour moi, le partenariat chez Phoenix qu'on a, c'est un peu la consécration de toute ma carrière. C'est vraiment là que j'ai vu c'était quoi que ça prenait pour arriver à travailler en équipe, puis à quel point c'est essentiel. Donc, on peut faire quelque chose seul beaucoup plus rapidement, mais on va atteindre beaucoup moins d'ampleur dans un travail solitaire que dans un travail d'équipe.
Comment décrirais-tu ta carrière en un seul mot?
Défi.
Puis, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu dirais que le GPA est important en tant qu'étudiant?
Pour un jeune diplômé, là, c'est très important le GPA, les notes. Par la suite, ben, on n'y fera jamais plus référence.
Et si tu n'étais pas dans l'industrie financière, que ferais-tu à la place?
Je serais un entrepreneur, certainement un entrepreneur en série.
Puis, quel livre recommanderais-tu à nos auditeurs?
Je recommanderais n'importe quel livre de Ray Dalio. Donc, que ce soit son dernier, là, qui est The World Changing Order, ou son livre sur les clés de succès. Donc, ces deux livres-là qui sont très, très importants selon moi.
Donc, cela conclut notre épisode. Merci beaucoup, David, de t'avoir prêté au jeu et d'avoir été autant généreux avec ton temps.
Merci, Loïc. Merci, Mathis.
Merci d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, LinkedIn et Instagram. Bonne journée et à la prochaine. Le seul objectif de ce podcast est d'éduquer et informer nos auditeurs. Il ne saurait en aucun cas remplacer l'orientation professionnelle par des experts qualifiés. Ce podcast est fourni sur la base de l'entente qui ne constitue pas un conseil financier ou professionnel, ni ne fournit de services professionnels. Au lieu de cela, nous vous encourageons à discuter de vos options de carrière ainsi que de vos engagements financiers avec des professionnels spécialisés dans la gestion de patrimoine, les valeurs mobilières et la gestion d'actifs ou tout autre domaine des services financiers. Les informations, opinions et recommandations présentées dans ce podcast sont uniquement à titre informatif et tout recours aux informations fournies dans ce podcast est fait à vos risques personnels et individuels. Ce podcast ne doit pas être considéré comme un conseil professionnel. Les invités qui interviennent dans ce podcast expriment leur propre opinion, expérience et conclusion. Les points de vue exprimés sur cette plateforme sont des opinions personnelles uniquement et ne doivent pas être interprétés comme des conseils financiers pour votre situation donnée ou provenant d'une institution donnée. Bien que toutes les tentatives soient faites pour présenter des informations précises, elles peuvent ne pas être appropriées pour des circonstances spécifiques et les informations peuvent devenir obsolètes avec le temps. Aucune entreprise ni aucune société fournissant un soutien financier n'approuve ni ne s'oppose à une opinion ou des outils particuliers discutés dans ce podcast. Ce podcast est disponible uniquement pour un usage privé et non commercial. La publicité incorporée, associée ou ciblée vers le contenu de ce podcast est interdite. Ce podcast ne peut être modifié ou redistribué. Le Corporate Chat Podcast n'assume aucune responsabilité pour les activités personnelles liées à ce podcast ou pour l'utilisation personnelle de ce podcast en relation avec des sites web personnels, des ordinateurs ou des appareils de lecture. De plus, le Corporate Chat Podcast ne garantit en aucun cas que ce podcast ou le serveur qui le rend disponible est exempt de virus, de verre ou d'autres éléments ou codes présents des propriétés contaminantes ou destructrices. L'Université McGill et nos sponsors déclinent expressément toute responsabilité pour tout dommage direct, indirect, accessoire, spécial, consécutif ou autre résultant de l'utilisation par toute personne de la référence A, de la confiance accordée à ou de l'incapacité à utiliser ce podcast ou les informations présentées dans ce podcast. Merci.